Bienvenue au journal en français du studio Kalangou de ce samedi 13 avril 2019 au micro Michel Deji. Les responsables de la section lycée et collège de Niamey ont demandé ce matin la libération immédiate de tous leurs camarades gardés à l'école de police depuis mardi pour destruction de biens publics et privés. Empathy Magazine, l'un des premiers journalistes de la Fondation Hirondelle, Pierre Guyot, nous fera un rappel historique des premières expériences de cette organisation créée au lendemain du génocide rwandais de 1994. Bonsoir à tous. Les responsables de la section lycée et collège de Niamey de l'Union des scolaires nigériens ont demandé ce matin la libération immédiate de tous leurs camarades. Ils sont gardés à l'école de la police depuis le mardi 9 avril pour destruction de biens publics et privés au cours de leur manifestation contre un arrêté du ministre de tutelle interdisant les cours de soutien dans les établissements publics et privés. Le secrétaire général de la section lycée et collège de Niamey, Idibi Salio, est au micro de Studio Kalangou.
À l'état actuel, ils sont au nombre de 97 qui sont à l'école de la police.
Qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement?
L'état les reproche d'avoir dégradé les tronçons, d'avoir saccagé les biens publics et privés. Mais nous leur disons que nous, les scolaires, nous ne sommes pas des barbares. Nous sommes des intellectuels. Et nous n'avons jamais cassé, nous n'avons jamais brûlé. Aujourd'hui, s'il y a eu des casses, s'il y a eu des brûlures, c'est qu'il y a eu des infiltrations de la part, peut-être, c'est la mobilisation de l'homme politique pour pouvoir infiltrer au niveau des scolaires et casser pour tenir l'image des scolaires. Mais nous le disons haut et fort. Nous avons vraiment la preuve de sagesse pour garder notre pays jalousement. Donc vraiment, ce que nous demandons aux autorités, c'est de penser à notre revendication légitime. Et deuxièmement, nous demandons sagement, poliment et gentiment de bien vouloir libérer nos militants. Sinon, tout ce qui adviendra, ils seront les seuls et uniques responsables.
Mardi à Ottawa, les syndicats de l'éducation de base étaient en assemblée générale d'information consécutive au tabassage d'enseignantes par la famille d'un élève. La justice a tranché et a demandé un dédommagement au profit de ces enseignantes. Le secrétaire général du SINASEB, Alassane Boubouka, au micro d'Abdoulaye Aoussouk.
Il s'agit des enseignantes qui ont été attaquées dans leur lieu de travail. Elles ont été molestées et tabassées. L'affaire, nous l'avons conduite d'abord de façon administrative. Puis, il y a eu une plainte au niveau du commissariat qui nous a conduit jusqu'à la justice où le substitut du procureur a appelé les plaignantes. Il nous a fait savoir la posture dans laquelle il compte résoudre cette affaire, c'est-à-dire par le voie de consensus que les enseignantes victimes seront dédommagées. Ce que nous, syndicats du secteur de l'éducation, avons décliné. Parce que nous ne sommes pas partis à la justice pour chercher de l'argent. Ces enseignantes qui ont été blessées ont eu le soin qu'ils méritent sans un sou de qui que ce soit. Nous avons voulu que, quand on parle là-bas, que le droit soit lu, que toutes les parties concernées sentent quelle est leur limite.
Le secrétaire général du SINASEB Tawa Alassane Boubouka, propos recueillis par Abdoulaye Aoussouk. La Fondation Hirondelle pratique et défend un journalisme rigoureux et responsable pour permettre au public de comprendre le contexte et les problèmes de son environnement. C'est là une déclaration de Caroline Veillemet, directrice générale de la Fondation Hirondelle. La vocation de leur organisation née à la suite du génocide rwandais. Caroline Veillemet, joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
L'idée de départ, c'était que après de telles souffrances, la dignité humaine peut se reconstruire avec l'information et que la confiance, le vivre ensemble peut revenir grâce au dialogue et à l'information quand elle est faite dans les pays concernés, dans les langues concernées, avec des journalistes professionnels qui font une information rigoureuse.
Au niveau de la Fondation Hirondelle, quelles sont vos attentes?
Mes attentes, c'est que l'on puisse, à chaque fois que les besoins sont là, travailler avec des journalistes pour leur permettre d'être dans les conditions pour informer, pour créer des espaces de dialogue, aider les sociétés à faire face face à leurs différents défis, que ce soit le défi de la réconciliation ou le défi du développement, du changement climatique. Tous ces contextes qui sont difficiles, j'espère, c'est que la Fondation peut, par l'information, aider les populations.
Comme dans un passé proche, dans d'autres pays africains, les manifestations populaires viennent d'avoir raison sur les présidents de l'Algérie et du Soudan. Cette façon de reproduire le système après une pression populaire ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Afrique. Le sociologue Maman Sani Rufai estime que l'Afrique est en train d'innover un nouveau système politique. Il est interrogé par Moustapha Maman Sani.
Ce qui vient de se passer au Soudan et ce qui s'est passé bien avant en Algérie, en Égypte et même au Zimbabwe nous montre que l'Afrique est en train d'innover un système politique qu'on ne trouve nulle part ailleurs, en tout cas à l'état actuel de nos connaissances. C'est-à-dire que là où les gens sacrifient un de leurs pour préserver le système. Parce que si vous prenez en Égypte, c'est ce qui s'est passé. Sous la pression de la rue, l'armée a décidé de mettre à l'écart Hosni Moubarak. Par la suite, le Zimbabwe a imité ce système. Lorsque les gens sont sortis de la rue pour s'opposer à Mugabe, on a vu comment l'armée a pris soin d'installer un dessin. C'est la même chose qui s'est passé récemment en Algérie. Et peut-être les manifestants au Soudan semblent l'avoir compris. Et même en Algérie, lorsqu'ils disent qu'ils vont continuer les manifestations parce qu'ils n'ont pas réalisé leur mouvement uniquement pour écarter un seul individu, mais c'est tout le système.
Pour les réfugiés soudanais vivant au Niger, les avis divergent sur la chute du président El-Bashir. Certains estiment qu'il fallait changer tout le système pour qu'il retourne au Soudan. D'autres préfèrent une paix définitive car le départ d'El-Bashir n'est pas synonyme de paix. Écoutons-les au micro d'Anissé Karim.
Nous, c'est pas l'arrestation de El-Bashir qui nous préoccupe. Il faudrait changer tout le système. Si le système a été changé et que tout le monde entier témoigne qu'au Soudan il y a la paix, en ce moment, nous sommes prêts à retourner. Moi, je ne retournerai pas au Soudan maintenant car jusqu'alors le Soudan n'est pas stable. Au moment où tout sera en ordre, je retournerai. Nos maisons ont été brûlées. Nous n'avions rien, même si nous retournons. Il faudrait que le pouvoir quitte définitivement le système de El-Bashir. En ce moment, nous allons retourner. Nous sommes contents de cette arrestation et souhaitent que tous les complices de El-Bashir soient aussi arrêté. Moi, je ne vais pas retourner. On ne fait que tuer des gens au Soudan. Pourquoi je vais retourner? Et même si je retourne, c'est toujours le système de El-Bashir qui sera au pouvoir. Il est arrêté, mais son système est là. Ça ne va pas du tout au Soudan. On préfère rester ici en attendant que tout soit en ordre. Et comme ça, nous allons retourner, vivre chez nous. Ce n'est pas parce qu'on veut vivre ailleurs.
Proposer des mesures concrètes pour débarrasser les rues de Niamey du fléau mendicité. C'est l'objectif de la réunion jeudi à Niamey entre le président de la délégation spéciale de la ville, les leaders religieux, les humanitaires et autres acteurs. Une synthèse permettra de dégager les actions à mener pour interdire la mendicité dans les rues de Niamey, a déclaré le président Mokhtar Mahmoudou au micro de Diallo Mariam Kanda.
Même l'islam reconnaît que la mendicité telle qu'elle se pratique dans la capitale, elle n'est pas permise. Le procureur de la République nous a édifié par rapport aux lois et règlements. Les dispositions juridiques sont là et interdisent la pratique actuelle de la mendicité dans notre capitale. Nous allons mettre en commun toutes ces réflexions pour prendre une décision responsable en vue de mettre fin à cette préoccupation dans notre ville. D'abord, un, il faut interdire la mendicité dans la rue. Deux, il faut d'abord catégoriser les mendiants. Qui peut être mendiant, qui ne peut pas l'être. Et ceux qui remplissent les conditions d'être mendiant, il faudrait identifier des endroits d'exercice de la mendicité. Cette fois-ci, nous faisons la promesse qu'il y aura des actions dans ce sens-là et des actions responsables.
À l'occasion justement de cette rencontre, le secrétaire général de la Fédération nigérienne des personnes handicapées a annoncé l'engagement de sa structure à combattre la mendicité au Niger. Habibou Abdoulaye est au micro de Diallo Mariam Kanda.
Effectivement, si on parle de la mendicité en général, on pense aux personnes handicapées. Vous êtes au courant, toutes les autorités sont au courant que ce sont des organisations qui sont bien organisées. Bien avant qu'on fasse cette rencontre, nous avons fait beaucoup de rencontres pour essayer de sensibiliser nos camarades. Nous, de notre côté, nous avons notre métier, nous avons du travail à faire et nous sommes prêts à contribuer pour la bonne réussite de cette sommet qui est là devant nous, Inch'Allah, dans 2 ou 3 mois. C'est pour cela que nous avons amené devant vous des propositions et on a remis ça au président de la délégation spéciale de la ville de Niamey.
Alors les propositions concrètes, c'est quoi?
Si on dit qu'il faut abandonner des choses, donc il faut qu'on vous appuie l'écoulement des produits fabriqués par les personnes handicapées. Nous avons des centres. Les centres là sont vraiment très très dégradés. Ils ont nombre de matériaux de travail.
Forum sur l'éducation inclusive, le mariage des enfants, l'incivisme, la paix et la sécurité. C'était jeudi à Baleyara, dans la région de Tillabéri, avec plus de 300 participants, dont des leaders d'opinion. Un extrait des recommandations avec le participant Cheibou Maynassara au micro de Seydi Abdou Winditan.
Sensibiliser les parents à inscrire leurs enfants en situation de handicap à l'école et les soutenir. Former les enseignants pour la prise en charge psychosociale des enfants handicapés. Construire des classes en matériaux définitifs. Sensibiliser les parents sur l'inscription et le maintien des élèves à l'école. Populariser le décret 2017/935/PRN portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarisation. Création d'écoles à cantine dans les villages et hameaux à habitants dispersés. Initier des actions de sensibilisation pour préserver la jeunesse contre toute velléité et de se faire enrôler par les terroristes et contre forme de délinquance. Aux chefs de village et leaders d'opinion présents au forum, de procéder à la confection des hangars à temps, de suivre régulièrement la fréquentation des élèves par les structures participatives, d'inscrire massivement les enfants en âge scolaire en général et les jeunes filles en particulier et les handicapés.
Parti Magazine à présent. En 1995, les journalistes Philippe Daïden, Jean-Marie Ete et François Gross créent la Fondation Hirondelle et reprennent Radio Agatachia, qui signifie « Petite Hirondelle » en Swahili, lancée par Reporters sans frontières au lendemain du génocide rwandais de 1994. Rappel historique avec Pierre Guyot, journaliste réalisateur de Passage à Niamey, dans cet entretien accordé à Mokhtar Hamadou dans les locaux de Studio Kalangou.
Grâce aux interventions de la Fondation Hirondelle, l'information a un impact immédiat sur la vie quotidienne des auditeurs. Pierre Guyot, ancien rédacteur en chef de la radio Okapi au Congo, parle de cette belle expérience du travail de la Fondation Hirondelle.
Un journaliste suisse s'était rendu au Rwanda pour couvrir la suite du génocide et avait été terriblement choqué, évidemment, de ce qui s'était passé, du drame rwandais, mais également, peut-être parce qu'il travaillait lui-même pour un média qui était une radio, la radio suisse, il avait été choqué par le rôle qu'avait joué une radio rwandaise qui s'appelait la Radio des Mille Collines, qui était une radio de propagande hutu, anti-tutsi, qui avait joué un rôle majeur dans le génocide. Oui, à la fois en donnant le coup d'envoi du génocide, qui a démarré par un code diffusé à la radio le soir du 6 avril 1994, lorsque les ondes ont annoncé « il faut couper les grands arbres », et c'est à ce moment-là que les massacres ont commencé, et qui, pendant les massacres, ont joué un rôle, j'allais presque dire, de guidage des génocidaires en leur disant « bah voilà, vous êtes allé dans telle maison, vous avez oublié les enfants qui se sont cachés à la cave, retournez-y ben ». Voilà. Et ce journaliste suisse a été terriblement choqué par le rôle qu'avait joué cette radio et a eu la volonté, en réaction à cela, de créer une station de radio dans l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, du côté de Goma, pour venir en aide aux réfugiés. On avait à l'époque les plus grands camps de réfugiés de l'histoire de l'humanité, presque plus d'un million de personnes. Et il a créé à l'époque une station qui s'appelait Radio Agatachia. Agatachia, ça veut dire hirondelle en swahili. Et puis par la suite, ce journaliste qui s'appelait Philippe Daïden, qui est décédé aujourd'hui, a, avec plusieurs de ses amis et de ses confrères journalistes suisses, des gens comme Jean-Marie Ether, qui sont vraiment les historiques de la fondation, créé une fondation pour développer ce qui est devenu Radio Okapi en République démocratique du Congo.
Vous faites partie des premiers journalistes de la fondation Hirondelle. Quelles étaient vos premières expériences?
J'ai été amené à assurer les fonctions de rédacteur en chef de Radio Okapi dans les tout débuts de la radio, je crois en 2002 ou 2003. Une expérience tout à fait étonnante, parce que d'un seul coup, je trouvais quelque chose qui était moins évident dans les stations ou les médias où je travaillais auparavant, qui était l'impact immédiat de l'information sur la vie quotidienne des auditeurs. On expliquait que à tel endroit sur la route, il y avait des tracasseries ou des militaires qui racketaient les gens, et dans la demi-journée qui suivait la diffusion du reportage, généralement, il se passait quelque chose, parce que les autorités étaient un peu embarrassées, se sentaient obligées de réagir.
C'est la fin de ce journal de Studio Kalangou. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et surtout, bon week-end à toutes et à tous. Oh.